Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un coureur de légende italienne, Gino Bartali. Son duel avec l'autre coureur cycliste italien Fausto Coppi a marqué à jamais l'histoire du Tour de France et du Tour d'Italie, les deux phases de l'Italie de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Excellent grimpeur, mais aussi capable de s'imposer au sprint, Gino Bartali remporte notamment trois Tours d'Italie en 1936, 1937 et 1946, ainsi que deux Tours de France à 10 ans d'intervalle, une performance jamais inégalée, en 1968 et 1948, rejoignant alors Ottavio Bottecchia, seul Italien à avoir remporté jusqu'alors le Tour de France en 1924 et en 1925. Gino Bartali est né le 18 juillet 1914 à Ponta Emma, près de Florence. Il décède le 5 mai 2000. Son père, Torello, exerce la profession de terrassier. Sa mère, Giulia, élève les 4 enfants de la famille. À partir de l'âge de 13 ans, Gino Bartali est réparateur de bicyclettes dans une boutique de cycles, le vélo, le cheval du pauvre. Dans l'Italie rurale, avoir un vélo, c'est avoir du travail, comme le montre le réalisateur Vittorio De Sica dans Le voleur de bicyclette en 1948. En Italie, en 1960, le sport roi est le vélo. Il supplante même le football. En 1936, son frère Giulio, coureur amateur prometteur, est victime d'un accident. Il heurte une voiture dans la descente rendue glissante par la pluie d'une course régionale. 2 jours plus tard, il meurt des suites de ses blessures. Envahi par le chagrin, Gino Bartali décide dans un premier temps d'arrêter le cyclisme. C'est à la suite de la mort de son frère Giulio en 1936 qu'il devient mystique. La première participation au Tour de France de Gino Bartali est 1937. Mais il abandonne. Gino Bartali écrase la concurrence dans le col de l'Isoard au cours du Tour de France 1938. Il gagne ce Tour de France 1938, son premier, avec plus de 18 minutes d'avance sur Vervec, deuxième. Le cyclisme n'est pas le sport favori des fascistes italiens et de Mussolini, contrairement à l'escrime, l'équitation, l'automobile, la boxe. Il est récupéré par le pouvoir en raison de sa victoire au Tour de France 1938. Néanmoins, Gino Bartali refuse de faire le signe fasciste. Il ne porte pas la chemise noire. Profondément croyant, membre de l'Action catholique, Gino le Pieux a toujours refusé d'être un ambassadeur du fascisme. Proche du cardinal florentin Elia della Costa, son activité de messager clandestin pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous couvert de sorties d'entraînement au cours desquelles il acheminait des faux papiers cachés dans le guidon ou la selle de son vélo, a permis de sauver plusieurs centaines de juifs. Il quittait régulièrement son domicile florentin pour se rendre à Assise, en Ombrie, occupée par les nazis, mais aussi à Gênes et dans les Abruzzes, faisant des trajets journaliers en aller-retour de 350 km. Il fut à ce titre reconnu comme juste parmi les nations en septembre 2013 et son nom figure au mémorial de Yad Vashem. Il devient Gino le Juste. Retour sur l'année 1948. Ce 14 juillet 1948, à la sortie de la Chambre des députés, le leader communiste Palmiro Togliatti est victime d'un attentat et se trouve entre la vie et la mort. Au soir de l'étape, le président du Conseil italien, Alcide De Gasperi, téléphone à son ami Gino Bartali, qu'il a connu à l'Action catholique, et lui demande de gagner le tour pour calmer les esprits en Italie. Alors que de nombreux observateurs ne croient plus en sa victoire, Bartoli réussit une performance d'exception lors de la première étape alpestre entre Cannes et Briançon. Alors que Jean Robic, vainqueur du Tour 1947, attaque sur les premières pentes du col d'Alos, Gino Bartali lui reprend du temps dans le col de Vars avant de le rejoindre dans la descente pour le distancer. Alors que la pluie et le vent rendent la course d'autant plus difficile pour les coureurs, il crée un écart considérable sur ses rivaux dans le col d'Izoard. Malgré une crevaison dans la descente, il franchit la ligne d'arrivée à Briançon en tête et revient à seulement 51 secondes de Louison Bobet. Le lendemain, entre Briançon et Aix-les-Bains, Gino Bartali est distancé dans le col de la Croix de Fer après une crevaison, mais revient sur les deux hommes de tête, Louison Bobet et André Brûlé, à Grenoble. Il attaque dès le début de l'ascension vers le col de Porte et sème définitivement ses adversaires. Il remporte une nouvelle fois l'étape et relègue Louison Bobet à plus de 8 minutes au classement général. Gino Bartali remporte une troisième étape consécutive à Lausanne, le jour de ses 34 ans. Il s'adjuge une septième victoire d'étape à Liège, acclamée par les travailleurs italiens immigrés. Sa domination est totale. Il gagne son deuxième Tour de France 10 ans après sa première victoire, avec une avance de 26 minutes sur le deuxième, Brick Scott. En 1949, on doit à Dino Buzzati, 1906-1972, l'auteur du désert des Tartares, la fameuse chronique sur le Giro 1949, un chef-d'œuvre de la littérature sportive. Le Giro 1949 part de Palerme, en Sicile. Ses chroniques dans la Corea de la Serra s'intitulent « Le duel Coppi-Bartali ». En 1949, Bartali crée sa propre équipe, à son nom. Malgré la présence du Suisse Ferdi Kübler pour les courses en Italie, son effectif est de faible qualité. Gino Bartali connaît un début de Tour d'Italie difficile. Il est diminué après avoir bu un bidon tendu par un spectateur. La victoire finale se joue lors de la 17e étape entre Cuneo et Pinerolo. Fausto Coppi, resté échappé seul pendant 200 km, s'assure définitivement du maillot rose à l'arrivée. C'est la naissance d'un grand. Gino Bartali se classe deuxième de l'étape et termine ce Giro à la même place, à près de 24 minutes de Coppi. Alors que le Tour d'Italie s'achève, Fausto Coppi veut s'aligner sur le Tour de France 1949 en tant que seul leader et ne souhaite pas la présence de Gino Bartali à ses côtés. Cette demande est immédiatement refusée par l'encadrement de l'équipe italienne qui ne peut pas se permettre de remercier le tenant du titre. Les négociations menées par le directeur sportif Alfredo Binda aboutissent à un accord. Après une difficile répartition des rôles au sein de l'équipe, Gino Bartali et Fausto Coppi prennent ensemble le départ du Tour de France 1949 à Paris. Découragé après une chute entre Rouen et Saint-Malo, Coppi est au bord de l'abandon, mais Gino Bartali lui vient en aide. Gino Bartali gagne la 16e étape à Briançon, le jour de ses 35 ans, au terme d'un arrangement avec Fausto Coppi. Il prend par la même occasion le maillot jaune, qui était alors sur les épaules d'un autre Italien, Fiorenzo Magni. Le lendemain, Fausto Coppi et Gino Bartali attaquent à nouveau ensemble, mais Bartali est retardé par une crevaison, puis par une chute. Coppi, qui a reçu l'ordre de ne pas attendre Bartali, gagne à Aoste et prend à son tour la tête du classement général. Il gagne encore l'avant-dernière étape, un contre-la-montre disputé entre Colmar et Nancy pour remporter son premier Tour de France devant Bartali. Bartali participe au Tour de France 1950. En l'absence de Fausto Coppi blessé lors du Giro, c'est le Suisse Ferdi Kübler qui l'emporte. Bartali se plaindra de l'hostilité du public français à l'égard des coureurs italiens. Lors de la première étape pyrénéenne, la 11e de ce tour, entre Pau et Saint-Gaudens, au col du Tourmalet, Gino Bartali s'échappe en compagnie de Jean Roubic et Louison Bobet. Dans la montée du col d'Aspin, des spectateurs français le gênent et le font tomber, tandis qu'il entraîne dans sa chute ses deux compagnons d'échappée. Malgré cet incident, Bartali gagne l'étape au sprint à Saint-Gaudens, devançant un groupe de coureurs parmi lesquels son coéquipier Fiorenzo Magni qui prend le maillot jaune. Cependant, après l'arrivée, Gino Bartali dit d'avoir été frappé lors de sa chute. Il déclare également avoir vu un homme s'approcher de lui, un couteau à la main. Se sentant menacé, il annonce à son directeur sportif Alfredo Binda son intention de se retirer de la course. L'ensemble des coureurs italiens quitte alors le Tour de France 1950. Gino Bartali participe au Tour de France 1952 avec l'équipe d'Italie, en s'engageant à tenir un rôle d'équipier pour Fausto Coppi. Celui-ci, vainqueur au mois de juin du Giro, refuse de voir Bartali dans son équipe s'il cherche comme lui à bien figurer au classement général, voire à gagner. Entre Sestrières et Monaco, Fausto Coppi est victime d'une crevaison et reçoit l'aide de Gino Bartali qui lui donne sa roue pour le dépanner. Coppi bénéficie encore de l'aide de Bartali durant la suite de la course. Bien qu'équipier, Bartali reste en course pour une place au classement général. Gino Bartali termine quatrième du Tour de France, à plus de 35 minutes de Coppi, dont c'est la deuxième et dernière victoire sur cette course. Outre leur rivalité sportive, les personnalités de Coppi et Bartali révèlent un antagonisme, ainsi décrit par l'écrivain Curzio Malaparte, 1898-1957. Il dit « Bartali appartient à tous ceux qui croient aux traditions et à leur immuabilité, à ceux qui acceptent le dogme. Il est un homme métaphysique protégé par les saints. Coppi n'a personne au ciel pour s'occuper de lui. Son manager, son masseur n'ont pas d'aile. Il est seul, seul sur sa bicyclette. Il ne pédale pas avec un ange perché sur son épaule droite. Bartali prie en pédalant. Coppi, rationaliste, cartésien, sceptique et pétri de doutes, ne croit qu'au moteur qu'on lui a confié, c'est-à-dire son corps. Cette rivalité sportive n'empêche pas pour autant une certaine amitié en dehors de la course. À titre d'exemple, Fausto Coppi, accompagné de son épouse, rend ainsi visite à Bartali lors d'une étape de repos sur le Tour de France 1948. Leur rivalité illustre la dualité de l'Italie d'après-guerre. Tandis que l'Italie du Nord, qui aspire à une libération des mœurs, s'identifie à Coppi, engagé dans une relation adultérine et soutenue par une frange plus libérale de la population, le Sud, où l'on se réfère aux dogmes de l'Église, adopte Bartali le Pieux. Les deux piliers de la vie politique italienne se disputent en vain les deux champions. Le Parti communiste contacte Coppi pour qu'il soit un des leurs aux élections législatives de 1948 et la démocratie chrétienne tente d'attirer aussi bien Bartali que Coppi. Coppi appellera finalement à voter pour la démocratie chrétienne. Contrairement à Bartali, qui incarne une Italie rurale meurtrie par la guerre, on fait incarner à Fausto Coppi une Italie d'après-guerre. Urbaine, moderne, celle du miracle économique italien d'après-guerre.
C'était la chronique de Gilles Labourroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.